Laudetur Jesus Christus.
L'Esprit Saint ouvre les frontières intérieures comme dans les relations entre les peuples. Dans son homélie du dimanche de Pentecôte, le pape Léon XIV a exhorté à abattre les murs de l'indifférence et à dissoudre les haines. Nous y revenons en détail au début de ce journal. Le bras de fer se poursuit entre la Californie et Donald Trump. Hier, le président américain y a envoyé la garde nationale après des heures consécutives aux arrestations brutales de migrants par la police en charge des expulsions. Dans ce journal également, le spectre des assassinats politiques qui plane de nouveau sur la Colombie après la tentative de meurtre ce week-end qui a visé un futur candidat à la présidentielle. Et puis plongé dans l'océan ce matin dans notre dossier alors que s'ouvre ce lundi une nouvelle conférence des Nations Unies à Nice. Les océans, un patrimoine menacé à protéger. Il faut aller au-delà des mots, nous dira notre invité, l'océanographe François Sarano.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour. En nous, dans nos relations entre les peuples, l'Esprit Saint ouvre les frontières. Le pape a célébré la messe de la solennité de la Pentecôte ce dimanche devant 80 000 fidèles venus place Saint-Pierre. Nombreux d'entre eux ont pris part au jubilé des mouvements d'église, associations et communautés nouvelles. Dans son homélie, Léon XIV a exhorté à abattre les murs de l'indifférence et à dissoudre les haines. Le compte-rendu de Delphine Allaire.
Cinquante jours après Pâques, 30 après son élection, Léon XIV a célébré l'effusion de l'Esprit Saint sur les apôtres en même temps que son premier mois dans les pas de ceux de Pierre. Reprenant à son compte l'image éloquente de Benoît XVI sur l'Esprit qui ouvre les frontières et les barrières des peuples, comme il a ouvert les portes du Cénacle. D'abord en nous-mêmes, sa présence dissout les duretés, les narcissismes et les vies atrophiées par l'individualisme.
Lo spirito di Dio ci apre all'incontro con noi stessi, oltre le maschere.
L'Esprit de Dieu ouvre à la rencontre avec nous-mêmes au-delà des masques sur Léon XIV, s'arrêtant ensuite sur l'ouverture des frontières dans nos relations, à même de nous ouvrir à la joie de la fraternité. Le pape s'est là attristé des dangers de la domination, citant avec douleur les nombreux récents féminicides. Or, l'Esprit, lui, fait mûrir douceur et maîtrise de soi, un critère décisif pour l'Église elle-même qui doit devenir accueillante et hospitalière. Enfin, le pape a médité sur l'Esprit qui ouvre les frontières entre les peuples.
Dove c'è l'amore, non c'è spazio per i pregiudizi, per la logica dell'esclusione che vediamo emergere purtroppo anche nei nazionalismi politici.
Là où il y a l'amour, pas de place pour les préjugés, pour la logique d'exclusion que nous voyons malheureusement émerger dans les nationalismes politiques, a-t-il lancé, déplorant que les guerres agitant la planète soient un signe tragique de l'indifférence.
Voilà, compte-rendu signé Delphine Allaire. Et avant de clore cette messe de la Pentecôte et la récitation de la prière du Regina Caeli, le pape a demandé à l'Esprit Saint le don de la paix. Tout d'abord la paix dans les cœurs. Seul un cœur pacifique peut répandre la paix dans les familles, dans la société, dans les relations internationales, a-t-il expliqué. Toutes ces informations sont bien évidemment à retrouver en détail sur notre site vaticannews.va. La paix, justement, on en est toujours bien loin dans l'est de l'Ukraine où l'armée russe poursuit son offensive. La défense russe a annoncé hier que ses unités, les unités de la 90e division blindée, avaient pénétré dans la région ukrainienne de Dnipropetrovsk qui borde celle de Donetsk. Une première depuis le début du conflit qui montre que les troupes russes continuent de progresser et qui relègue au second plan tout processus de négociation de paix. À Moscou, les précisions de Jean-Didier Revoin.
Selon la défense russe, les unités de la 90e division blindée ont atteint la frontière ouest de la région de Donetsk. Mais loin de s'arrêter à la limite du territoire annexé à la Fédération de Russie en 2022, les forces russes poursuivent leur effort de guerre dans la région ukrainienne frontalière de Dnipropetrovsk. Une bombe guidée y a fait un mort dans la localité de Mejivska, alors que les autorités locales ont fait état d'attaques combinées sur la zone de Nikopol au moyen de drones, d'artillerie et de systèmes de lance-roquettes multiples Grad. Moscou n'a pas communiqué ses objectifs, mais on peut raisonnablement penser que cette conquête territoriale doit permettre de repousser les forces ukrainiennes et réduire ainsi les attaques qui touchent quotidiennement la région de Donetsk. Il pourrait aussi s'agir du début de l'installation d'une zone tampon entre l'Ukraine et les territoires que Moscou considère comme russes. Au moment où Moscou et Kiev ont repris des négociations directes, de nouveaux gains territoriaux sont tout à l'avantage du Kremlin pour se positionner en force face aux Ukrainiens. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
Et les villes de l'ouest de l'Ukraine ont également essuyé la nuit dernière de nouveaux bombardements. La Pologne a fait décoller ce matin des avions de chasse, une opération courante lorsque missiles ou drones russes visent ces régions frontalières avec un pays membre de l'OTAN. Et puis concernant un nouvel échange de prisonniers russes et ukrainiens qui devait avoir lieu ce week-end, il devrait se tenir la semaine prochaine selon Kiev. Et Volodymyr Zelensky accuse la Russie de jouer un jeu sale et politique en retardant cet échange de prisonniers. À la une de l'actualité également, ces graves tensions dans l'agglomération de Los Angeles depuis quelques jours au sujet de la politique migratoire. Durant tout le week-end, des manifestants se sont opposés aux arrestations musclées d'immigrés menées par la police fédérale de l'immigration, l'ICE. Face aux troubles, Donald Trump a déployé la garde nationale, décision prise sans l'avis du gouverneur de Californie, l'une des principales têtes de turc du président, Loïc Loury.
Depuis 1965, jamais la garde nationale n'avait été déployée sans l'aval d'un gouverneur. C'est pourtant bien ce qu'a fait Donald Trump. Les troupes seront là, assure-t-il, pour faire respecter la loi et l'ordre. D'après Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, le milliardaire ne fait que mettre de l'huile sur le feu de manifestations jusque-là relativement pacifiques. Après deux jours de tension malgré tout face à la police de l'immigration, la confusion s'est toutefois accru hier, en particulier devant un centre de détention où les forces de l'ordre ont riposté à coups de gaz lacrymogène ou de grenades assourdissantes, l'occasion d'un déluge de commentaires incendiaires de la part du président qui dit vouloir libérer Los Angeles d'une invasion migratoire. Donald Trump, qui n'avait pas encore été confronté depuis son retour au pouvoir à une opposition aussi frontale sur son dossier fétiche, a manifestement choisi le face-à-face. C'est l'escalade. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
Et l'archevêque de Los Angeles, Monseigneur José Gomez, dit prier pour que la situation reste calme. Il n'est pas nécessaire que le gouvernement prenne des mesures qui suscitent la peur et l'anxiété chez des immigrants ordinaires qui travaillent dur et leurs familles, a-t-il déploré dans un communiqué publié au début de ce week-end. Les États-Unis, où l'interdiction d'entrer sur le territoire pour 12 pays est entrée en vigueur après la signature d'un décret la semaine passée. Elles sont concernées les ressortissants d'Afghanistan, de Birmanie, du Tchad, du Congo-Brazzaville, de Guinée-Équatoriale, d'Érythrée, d'Haïti, d'Iran, de Libye, de Somalie, du Soudan et du Yémen. La Colombie semble revivre ses fantômes, ceux des assassinats politiques des années 1980-90. Ce week-end, c'est Miguel Uribe, un candidat de droite à l'élection présidentielle prévue l'an prochain, qui a été touché par balle à la tête lors d'un meeting de pré-campagne à Bogota. Miguel Uribe est entre la vie et la mort, une tentative de meurtre qui secoue tout le pays. À Bogota, les précisions de William Gazo.
Des coups de feu, puis l'horreur dans le quartier de Modelia, dans l'ouest de Bogota. Touché deux fois à la tête et une fois au genou, le sénateur de droite a été transféré à la clinique Santa Fe dans un état de gravité maximale selon le personnel médical, qui a également indiqué que son pronostic vital était toujours engagé. Dimanche soir, très peu d'informations avaient filtré sur l'auteur des tirs et ses motivations. Un jeune de 15 ans a tout de même été arrêté sans que son identité n'ait été révélée. Des images de vidéosurveillance montrent l'adolescent blessé à la jambe tentant de fuir une arme de poing à la main. L'attentat a en tout cas suscité l'indignation de l'ensemble de la classe politique. C'est qu'en Colombie, la tentative d'assassinat replonge le pays dans les heures les plus sombres de son histoire. Entre août 1989 et avril 1990, trois candidats présidentiels avaient tous été assassinés en pleine guerre contre le cartel de Medellín. Miguel Uribe Turbay avait lui perdu sa mère, Diana Turbay, à l'âge de 5 ans. Prise en otage par un groupe affilié à Pablo Escobar, elle est décédée dans la tentative de libération, touchée par des tirs croisés entre la police et les narcos. Bogota, William Gazo, pour Radio Vatican.
Avant de passer à notre dossier, un mot de ce navire, le Madeleine, avec à son bord 12 activistes qui ont tenté de forcer le blocus israélien dans la bande de Gaza. Ils étaient partis le 1er juin d'Italie. Selon les occupants de ce navire, il a été arraisonné dans la nuit par l'armée israélienne. Israël dit de son côté l'avoir dérouté et assure que ses occupants vont retourner dans leur pays. Et derrière cette opération très médiatisée subsiste le drame humanitaire à Gaza. Plus aucun hôpital n'est en service dans le nord de l'enclave, a alerté l'Organisation mondiale de la santé ce week-end. Nous vous proposons une plongée dans la Grande Bleue ce matin. Plus de 70 dirigeants de la planète se retrouvent ce lundi dans la baie des Anges à Nice, sur la Côte d'Azur, dans le sud de la France. Aux côtés de milliers de scientifiques et de représentants d'ONG, ils vont discuter jusqu'à jeudi prochain de l'urgence mondiale qui menace les océans, objet de cette troisième conférence de l'ONU après celle de New York en 2017 et de Lisbonne en 2022. Parmi les points clés de cette conférence, la création de nouvelles aires marines protégées, la ratification du traité sur la haute mer et le moratoire sur l'exploitation des fonds marins. À l'issue du sommet, la déclaration de Nice sera adoptée, un texte de 8 pages négocié depuis des mois et qui appelle à une action urgente mais qui n'est pas juridiquement contraignant. Les États-Unis sont par ailleurs le grand absent de cette conférence. ONG et petits États insulaires espèrent pourtant que ce sommet multilatéral ira au-delà des simples mots. C'est aussi le cas de notre invité ce matin, l'océanographe et plongeur François Sarano, fondateur de l'association Longitude 181 et ex-conseiller scientifique du commandant Cousteau. Il nous livre son regard sur la santé des océans.
Il se porte fort mal parce que nous nous comportons fort mal comme si nous ne faisions pas partie de ce monde. Pourquoi ? Parce que nous le polluons. Depuis 50, 60 ans, on envoie des produits chimiques de toutes sortes dans les océans à travers nos fleuves qui sont les racines de la mer. Et les organismes marins souffrent des polluants que nous envoyons dans les océans jusqu'aux plus grands fonds marins. Ensuite, nous n'avons aucun respect pour les zones côtières que nous saccageons et dans lesquelles nous prélevons du sable, des ingrédients pour notre béton. Évidemment, les organismes marins qui sont sur ces côtes, dépérissent. Et enfin, nous pêchons très au-delà de ce que l'océan peut nous offrir. Toutes les espèces marines sont à la limite soit de la disparition, soit de l'effondrement. Et encore, je ne parle que des espèces que nous considérons. Parce que ce qu'il y a de grave, c'est que pour nous, seules les espèces que nous considérons comme des ressources de nourriture sont considérées, sont gérées, et les autres espèces, elles, sont totalement ignorées. Elles sont moins considérées que les grains de sable d'une plage. Et quand on a si peu de considération pour ces autres vivants, on ne peut pas les protéger.
Face à ces dégradations avancées de la biodiversité marine, quelles solutions ont jusqu'à présent émergé et surtout ont été mises en application ?
Nous le savons depuis 50 ans. Et les données, on les a. Dans les années 80, on écrivait déjà les mêmes choses qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui marche ? Les réserves marines. C'est des endroits où on laisse la vie marine se développer en libre évolution et sans prélèvement. Parce que les écosystèmes savent très bien s'adapter à toutes les autres situations, au changement climatique. Mais il y a une chose auxquelles ils ne s'adaptent pas, ce sont les prélèvements comme nous les faisons, nous. Il faudrait simplement que nous levions la pression que nous exerçons sur cette vie marine. Mais aujourd'hui, personne ne veut diminuer la pression. Tout le monde essaye au contraire de tirer la part à soi. Quand on, dans les réserves marines, on diminue la pression, on s'aperçoit que la vie revient sur la côte, là, pas loin de Nice, ou dans le Var, il y a des réserves marines, la réserve nationale de Porquerolles, par exemple. Depuis 60 ans, on a décidé qu'il n'y aurait plus de pêche ou qu'elle serait extrêmement limitée. Sur cette toute petite zone, la vie est exubérante, elle est foisonnante, elle est revenue parce que simplement on a levé le pied. On sait exactement ce qu'il faut faire. Nous avons la surface qui masque ce qui se passe et donc personne ne s'en rend compte. Mais nous, les plongeurs, qui sommes des témoins privilégiés de ce qui se passe sous la surface, alors nous pouvons témoigner de ça.
Sur les différents sujets au programme des négociations, quelles sont vos principales attentes de ce sommet ? En quoi sera-t-il utile ?
Les océans sont les grands oubliés. Il y a eu plus de conférences mondiales sur l'intelligence artificielle que sur les océans. C'est vous dire. Donc, c'est très important, ces conférences, parce qu'il faut que l'on comprenne qu'il n'y a qu'une seule biosphère, qu'un seul océan, et il n'y en a pas de rechange. Nous sommes irrémédiablement liés à lui. Nous avons besoin de lui. Alors, les avancées ? Très peu, malheureusement. Très peu, parce qu'il est difficile de se mettre d'accord, 180 pays. Aujourd'hui, on a tellement l'habitude de le considérer comme un simple réservoir de ressources que le fait de se réunir pour dire qu'on va continuer comme avant à l'exploiter et à le saccager, c'est tout ce qui va sortir de ça. J'en attends pas grand-chose. Notre association Longitude 180 n'en attend pas grand-chose, mais il est important qu'il y ait ces réunions quand même, parce qu'on se rend compte qu'il est nécessaire de mettre autour d'une table les gens des pays différents et on a besoin de discuter. Ensuite, aujourd'hui, il y a quelques décisions cruciales qui doivent doivent être maintenues. Et la France en est leader, c'est l'interdiction formelle de l'exploitation minière dans les grands fonds marins. Parce que cette exploitation ravagerait pour toujours la vie très très fragile qui y réside.
Voilà, interrogé par Delphine Allaire, l'océanographe et plongeur François Sarano était ce matin l'invité de Radio Vatican. Et ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'actualité internationale et du Vatican. Ce sera bien entendu à 13h. J'aurai le grand plaisir de vous y retrouver. Et n'oubliez pas nos informations d'ici là sur Vatican News. Excellente journée à tous.